Dans nos communautés, une émission de Christiane Hervault sur Radio Alliance Plus.
Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de Radio Alliance Plus, bienvenue pour notre émission. Aujourd'hui, je vous propose le témoignage de Lionel Guibal. Lionel Guibal est aumônier des prisons avec l'Église protestante. Il est aumônier à Tarascon et à Arles, dans les maisons d'arrêt, depuis déjà de nombreuses années. Mais avant ça, il a eu une autre vie. Une vie dans la drogue, sans Dieu, et une vie de conversion en Amérique du Sud, et puis une vie d'évangélisation, une vie de témoignage de ce que Jésus-Christ a fait pour lui. Et voilà, il a voulu en parler. Il en a parlé à la radio, Radio Ecclesia, et vous allez écouter ce témoignage maintenant. Après un petit temps musical que vous écouterez avant et après le témoignage de Lionel Guibal. Nous nous retrouvons ensemble juste après.
Osez croire que tu m'appelles, osez la bonne nouvelle, changer de regard et changer la vie devant soi. La confiance en toi. À qui irons-nous, Seigneur Jésus? À qui irons-nous dans l'inconnu? Si tu n'étais qu'un rêve, si tu n'étais pas venu. À qui irons-nous sur terre, au ciel? À qui
Lionel Guibal, bonjour.
Bonjour.
Vous faites partie de l'Assemblée évangélique intitulée Les Frères.
Les Frères, oui.
Et aujourd'hui, il faut dire que nous sommes dans la semaine de l'unité des chrétiens. Donc, c'est bien tombé que vous veniez donner votre témoignage. Mmh. Et votre témoignage se trouve dans un petit livret qui s'appelle « De la drogue à Jésus-Christ ». Déjà, ce titre nous indique que quelle est votre histoire?
Ah, tout à fait. Tout
quelle
à
est
fait.
Votre histoire?
Mais mon histoire est très simple. Voilà, je m'appelle Lionel, j'ai 76 ans. Je vivais dans un petit village Vergèze, à 15 km de Nîmes. Et nous avions avec maman l'habitude de passer des vacances dans le sud de l'Espagne, à Alicante. Je me suis rendu dans ce lieu de vacances, qui est aussi un lieu de débauche un peu. Et là-bas, bien entendu, ben, bêtement, on m'a proposé de fumer, comme on dit, des joints. Et bon, je ne m'étais jamais drogué, j'avais 20 ans, et j'ai commencé à fumer des joints, de la marijuana, du hashish. Et bien entendu, j'ai trouvé ça très... au début, pour moi, j'ai trouvé ça très agréable, ça me donnait des ailes, ça me sortait un peu de moi-même. Et alors, je suis resté quelques temps là, puis je suis revenu sur Nîmes, sur Vergèze, où j'avais ma bande de copains. Et malheureusement, ce que j'ai fait, et là, j'ai pas bien agi, j'ai pris de la drogue que j'ai ramenée à Vergèze et à Nîmes. Nous étions toute une bande de copains, nous avions 20 ans, et je les ai initiés à la drogue. Et alors, mes amis, nous avons fumé, et ça a duré comme ça pendant plusieurs années. Alors, c'était vraiment une vie de débauche, hein. Parce que qui dit drogue dit luxure, toutes sortes d'abus à tous les niveaux. Et il s'est trouvé que, bon, au début, c'était, comme on dit, des drogues légères. En fait, il n'y a pas de drogue légère. Il y a de la drogue, point barre. Et finalement, au bout de quelques temps, on allait en boîte, écouter de la musique rock, Churrascaya, des boîtes à Uzès de partout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on a rencontré des gens qui, eux, avaient franchi un cap plus haut, qui prenaient de l'héroïne, de la cocaïne, de la morphine et tout. Et ils nous ont initiés à ce type de drogue. Et ça a duré comme ça pendant 5 ans. Et je peux vous dire qu'au bout de 5 ans, j'étais complètement anéanti, détruit, autant psychologiquement que physiquement. Ça, la drogue m'avait vraiment détruit. Et voilà que descendent un couple de Parisiens qui se joignent à notre groupe. Et on se droguait ensemble. Alors, musique, débauche, tout ce que vous pouvez vous imaginer. Et alors ce couple, au bout de quelques temps, me dit « Lionel, tu sais, ici c'est bien, mais on a envie de partir en Amérique du Sud parce que là-bas, vraiment, il y a tout ce qu'il faut. La cocaïne, la marijuana, les champignons hallucinogènes, il y a tout. » Alors comme j'étais bien anéanti, j'ai dit « Ben oui, je vais partir avec vous. » Et nous voilà, prenons l'avion à Paris, nous atterrissons à Lima. Et c'était en 75. Et quand j'arrive à Lima avec ce groupe, qu'est-ce qu'on voit? Bien entendu, on ne va pas dans les quartiers les plus huppés de Lima, on va dans les quartiers populaires. Et là, je me rends compte de toute cette jeunesse qui se droguait. Et voilà, et la drogue continuait. J'étais parti de Nîmes avec un garçon qui était d'une très bonne famille de Nîmes et qui malheureusement a fait une overdose en Afrique et est mort de la drogue. Et il était avec moi et ce garçon me dit « Écoute Lionel, on va partir en Amazonie. On va acheter un bateau, on ira directement voir une raffinerie, puis là on aura tout sous la main. » Et comme on était tellement drogués, moi-même personnellement, j'ai pas réalisé. Alors on a franchi la cordillère des Andes et on est descendu dans l'enfer vert, c'est-à-dire l'Amazonie. Et là-bas, qu'est-ce qu'on a fait? On est arrivé au bout, il y avait plus de route, de pistes, il y avait plus rien. Alors il y avait des Indiens, alors on a acheté un bateau, il faut être conscient qu'on était complètement drogués. On ne savait pas ce qu'on faisait. On s'imaginait qu'on allait naviguer comme ça, comme si on naviguait sur le Vidourle. Et on a acheté un bateau, de la nourriture, on est parti, puis le bateau a chaviré, on a manqué se noyer. Bon, c'est marqué dans mon livre, si quelqu'un veut le lire, je le distribue gratuitement. Et alors, quand j'ai vu cela, j'ai dit à ce jeune garçon, j'ai dit, écoute, je préfère qu'on se sépare parce que je me droguais, mais je sentais bien que ça me tirait vers le bas. J'étais vraiment paranoïaque, j'étais devenu paranoïaque, j'étais malade, et lui, ce garçon se droguait, mais comme un fou, hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il en est mort, hein. Il a fait une overdose.
Surtout que la drogue, ça a un certain coût aussi.
Oui, mais ça va venir après. La drogue, ça a un certain coût. Mais quand on a de la drogue, on devient un dealer.
Oui.
On vend. Et c'est ce que je faisais, je ne l'ai pas dit, mais quand j'étais à Vergès, je vendais sur Alès, sur Nîmes, de partout. Et alors je faisais des gros bénéfices. J'avais de l'argent, je ne manquais pas d'argent. Mais pour revenir à mon ami en Amérique du Sud, ben, il s'est trouvé que ce garçon est parti vers la Bolivie et moi je suis parti sur l'Équateur. Parce qu'au Pérou, j'avais rencontré un jeune Canadien, un hippie. C'était le temps des hippies. C'était en 75. J'avais 25 ans à l'époque. Et ce jeune me dit, tu sais, si tu veux vraiment t'éclater, il faut aller en Colombie, à Saint-Augustin, qui est un nom bien intéressant, Saint-Augustin. Et là-bas, tu verras, il y a des champignons hallucinogènes, il y a tout ce qu'il faut. Alors me voilà parti avec mon sac. Je traverse l'Équateur, je traverse la Colombie. Et j'arrive dans ce petit village où, bien entendu, qu'est-ce que je vois? Que des jeunes de tous les pays qui se droguaient, la débauche et tout. Je veux faire une parenthèse. Quand j'étais au Pérou, on fumait de la marijuana avec du crack de cocaïne. Et comme on n'avait pas de papier à rouler, il y avait un jeune qui avait une vieille Bible. Et il arrachait des feuilles, on roulait des joints avec la Bible. Voilà, et je ne savais pas que quelques mois après, j'allais découvrir la Bible, mais plus pour la fumer, mais pour la lire. Et voilà, alors il s'est trouvé que je suis arrivé dans ce village de Saint-Augustin, et là, je déambulais dans les rues, je voyais des filles et des garçons de mon âge, de différents pays qui se droguaient. On était des hippies, on voyageait à l'époque. Et je vois dans un coin un jeune Indien avec les cheveux longs, il y avait la guitare, ils étaient assis, il y avait des groupes de jeunes. Et moi, je les voyais, mais j'étais pas particulièrement intéressé pour écouter ce qu'ils disaient. Et puis un couple de Suisses qui était là me dit « Tu devrais y aller, il parle de Jésus. » Alors moi, Jésus, bien entendu, j'avais fait mon catéchisme étant petit, je savais qui était Jésus. Mais je me souviens la réponse « Non, Jésus, moi, c'est pas mon truc, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de m'éclater avec les filles, de me droguer, de faire la fête. » Et puis voilà, les jours passent dans ce village. Il y avait une petite gargote là. On était à l'Amazonie, dans la jungle là, hein, jungle colombienne. Il y a un Indien qui vendait du café et je rentre pour boire un café et il y avait avait ce jeune, ce Luis Carrera. Bon, je parle espagnol parce que ma maman était espagnole, je parle espagnol couramment. Et il parlait anglais, moi aussi d'ailleurs. Et ce jeune, on se branche et il commence à me parler. Et en parlant, bon, on arrive au sujet. Il commence à me parler de Jésus. Oui, j'avais entendu moi aussi parler de Jésus. J'avais fait ma communion privée solennelle. J'étais premier en catéchisme à l'Assomption. Mais il m'a parlé d'un Jésus qui voulait, pour lui-même d'ailleurs, ce Jésus l'avait sorti de la drogue, l'avait libéré de cette addiction et tout le reste avec la fornication et tout ce qui s'ensuit. Et il me dit, mais ce Jésus peut t'aider. Ce Jésus, quel Jésus? Mais le Jésus des évangiles. Il n'y en a qu'un de Jésus, celui qui est mort sur la croix pour nos péchés. Et celui qui est capable de nous délivrer de toutes nos addictions. Parce que quand on parle d'addiction, on parle de la drogue, on peut parler de l'alcool, du sexe. Il y a tellement de formes d'addiction dans la vie. Et alors il s'est passé que je me suis vite rendu compte, chers amis, que ce garçon avait quelque chose qui me manquait terriblement. Ce garçon rayonnait. Il avait la paix, il était paisible, il rayonnait, il avait un parfum, comme dirait saint Paul, la bonne odeur de Jésus-Christ. Et alors je lui ai dit, mais Luis, en espagnol, comment je peux faire moi pour le connaître, ce Jésus dont tu me parles, dont la Bible, le Nouveau Testament nous parle? Il me dit, mais c'est pas compliqué, tu as simplement qu'à lui ouvrir ton cœur et lui dire, Seigneur, aide-moi, viens dans mon cœur. Et je crois que sans avoir eu de révélation ni de vision, je ne suis pas un mystique ni rien, je crois que j'ai adhéré, j'ai cru à cette bonne nouvelle, car l'évangile c'est quand même la bonne nouvelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et j'ai cru.
Vous avez sans doute vu en Luis Carrera un visage lumineux.
Ah oui, un visage resplendissant. Un visage lumineux, il ne se droguait pas, il avait une vie très simple, mais il avait quelque chose que je n'avais pas. Il était plein, il débordait, alors que moi j'étais complètement vide avec le sexe, la drogue et tout le reste. Et alors ce qui s'est passé, bien entendu, je peux vous le dire la vérité, je crois que je ne mens pas, dans demi-heure, une heure, j'étais converti, j'avais adhéré à la foi, j'avais compris. En voyant ce jeune garçon qui avait quand même 25 ans, 30 ans, j'ai compris que ce qu'il avait, c'est ce qui me manquait. Et c'est ce que peut-être je cherchais à travers tout mon pèlerinage de drogue, de débauche et tout, finalement. C'est ce que je cherchais. Voilà. Et alors, bien entendu, il s'est passé qu'au bout de quelques temps, il m'a dit, bon, Lionel, je retourne à Bogota, il avait une Land Rover. Alors je lui ai dit, écoute, je peux venir avec toi, Luis? Il m'a dit, oui, si tu veux, tu viens avec moi. Et voilà, nous voilà partis sur des pistes, et on arrive quelques jours après à Bogota. Et à Bogota, j'avais remarqué que ce jeune homme lisait la Bible. Et moi, j'avais pas de Bible. Alors je lui ai dit, j'aimerais bien m'acheter une petite Bible, Luis. Alors je vends ma drogue que j'avais, le peu d'argent, et je rentre dans une librairie catholique, justement. Je rentre et je demande à ce monsieur une Bible. Et voilà que ce monsieur me dit, mais justement, j'ai une Bible catholique, Jérusalem, traduction Jérusalem, en français. Je l'ai encore à la maison, d'ailleurs. Oh, j'ai dit, ah oui. Et voilà que j'achète la Bible et que je commence à lire les livres de la sagesse, surtout les livres des évangiles de Jean, les proverbes de Salomon. Et j'entends cette parole qui résonne encore dans mon cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Mon fils, mon fils, mon fils. Et moi, j'avais perdu mon papa. À 3 ans, j'avais pas connu mon père et ça m'a beaucoup manqué dans ma vie. Et voilà que ce Dieu que je connaissais pas, mais qui se révèle en moi par Jésus-Christ, m'appelle mon fils, me dit, ne donne pas ta force aux femmes, ne te drogue pas, je peux répondre à tes besoins, je peux combler ta vie, je peux faire que ta vie prenne tout son sens. Et là, j'ai commencé à méditer cette Bible et j'ai été tellement touché à l'intérieur de moi-même. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais il s'est passé que de suite, j'ai compris. Je me suis dit, Lionel, tu dois retourner à Nîmes, tu dois dire à tous tes amis ce que tu as découvert. Alors j'ai pris l'avion, je suis retourné à Lima, j'ai pris l'avion et quelques jours après j'étais à Nîmes, dans les rues, je me revois dans les rues, dans mes copains à Nîmes, à Vergès, partout, leur parler de Jésus. Or je ne savais pas grand-chose. Depuis ce temps, bien entendu, j'ai fait des études de théologie, j'ai appris à connaître la Bible, mais là, je ne parlais que de Jésus, de son amour, de ce qui pouvait nous combler.
Ils ont dû bien se moquer de vous, non ?
Ils se sont moqués de moi. Ils ont dit, mais Lionel, tu as trop pris de drogue. Tu es resté coincé. Je leur ai dit, non. C'est pas la drogue, c'est Jésus, le Jésus des évangiles. J'avais même un ami à moi qui avait commencé à lire un livre indien, la Bhagavad Gita. Et je lui ai dit, non, c'est la Bible qu'il faut lire, c'est la parole de Dieu. Alors mes amis, au début, se moquaient un peu de moi. Mais au bout de quelque temps, je les revois tous venir à la maison et me dire, Lionel, allez, parle-nous un peu de Jésus. Alors on était assis et on parlait de Jésus. On ne savait pas grand-chose. Mais voilà, c'était le commencement d'une vie chrétienne. J'ai maintenant 76 ans. J'avais 25 ans quand j'ai fait cette rencontre avec Jésus. Et depuis, ben, cette foi que j'ai a été de plus en plus en s'approfondissant. Et je suis tellement reconnaissant d'avoir la foi de connaître Jésus.
Vous arrivez sur Nîmes, comment vous continuez votre vie ?
Mais je continue ma vie. Il se trouve qu'à Vergès, il y avait un pasteur, M. Marcel Arnal, de l'Église réformée de France. Ce pasteur et sa femme, ça faisait 20 ans ou 25 ans qu'ils priaient pour qu'il y ait un réveil spirituel à Vergès. Et voilà qu'un jour, j'étais à la maison, ma maman me dit, il y a un monsieur qui veut te voir. Et je vois rentrer un vieux monsieur avec un chapeau. Et alors je vous dis déjà une chose, c'est que à partir de ce moment-là, j'avais déjà arrêté de me droguer. Ni je fumais, ni je me droguais. Pourquoi ? Parce que le vide qui m'habitait était comblé. La nature a horreur du vide, bien entendu. Le Christ m'a comblé pleinement. Alors ce vieux monsieur rentre, il se présente, voilà. Je suis Marcel Arnal, qui est très connu, qui est un homme qui avait écrit plusieurs livres même. Et cet homme s'arrête et commence à me parler. Et ce qui est quand même extraordinaire, cet homme avait dans les 75 ans. Moi j'avais 25 ans à l'époque. Et c'est ce monsieur rayonnait, toujours pareil. Ce monsieur était rempli de l'esprit. Et il nous parlait à nous, alors j'avais réuni tous mes copains, oui.
Vous avez retrouvé le visage resplendissant de Louis dans le pasteur Arnal.
Qui était un véritable croyant, un enfant de Dieu. Et alors, on était dans ma salle à manger, on était une dizaine de garçons et filles, et ce vieux monsieur, qui était un homme resplendissant, comme vous le dites, nous parlait de Jésus, de la Bible. On mangeait les paroles qu'il nous disait, c'était... comme des ruisseaux d'eau dans un désert, c'était extraordinaire. Et alors, au bout de quelque temps, bien entendu, je me suis rendu compte que je connaissais pas la Bible et que ça me manquait. Mon esprit n'était pas meublé de choses spirituelles. Alors, je lui dis, Marcel, j'aimerais bien pouvoir étudier la Bible. Il me dit, ben écoute, Lionel, il y a des collèges bibliques. Mais moi, bon, les collèges bibliques me laissaient un arrière-goût parce que je me disais, dans un collège, on va m'obliger à apprendre. Alors je lui ai dit, je préférerais aller à l'université. Il me dit, mais il y a aussi une université de théologie à Aix-en-Provence, une université protestante, bien entendu, puisque j'évoluais dans un milieu, sans le vouloir d'ailleurs, dans un milieu protestant. Après, j'ai bien connu des milieux catholiques où j'ai beaucoup apprécié certains écrits. Et là, je me revois, ce pasteur m'amène à M. Courtial, qui était un homme très connu à Aix-en-Provence. Il me dit, voilà, je voudrais faire des études de théologie. Mais j'avais quitté l'école à 14 ans. J'avais même pas mon certificat d'études. Et ce monsieur, très, très intelligent, très attentif, m'a dit, écoutez Lionel, je veux bien vous prendre à la fac, mais il faut que vous vous inscriviez pour passer une équivalence au bac. Et voilà que je me suis inscrit à la faculté de droit d'Aix-en-Provence, où durant l'année je faisais de la théologie, et j'étudiais, et j'ai passé mon équivalence. Voilà, enfin ça a duré un certain temps, puis je me suis rendu compte finalement, au bout de certains temps, que je n'étais pas quelqu'un qui pouvait être ceci calviniste, ou ceci ou luthérien, ou quoi que ce soit d'autre. J'étais un esprit indépendant, un autodidacte, et je voulais lire ce qui m'intéressait en fait. Et j'ai quitté la fac et j'ai commencé à lire dans mon particulier des livres très intéressants. D'ailleurs, j'ai lu même des livres catholiques. Je suis même allé au Québec, au Canada, rencontrer un prêtre qui s'appelait Yves Girard, avec qui j'ai eu beaucoup d'entretiens, qui avait écrit des livres « Croire jusqu'à l'ivresse ». Oh, c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. On a été avec mon épouse le rencontre au Canada. Mais enfin, voilà. Alors j'ai commencé, mais j'évangélisais beaucoup. J'avais ce service. Je crois que Dieu m'a donné ce service d'évangéliste. Oui. Alors voilà. Et puis un jour, un groupe de chrétiens passe par mon village et voilà que ce groupe avait un chapiteau et ils évangélisaient. Et moi, je me suis joint à eux. Enfin, je les ai écoutés. Et puis au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que Dieu m'appelait à laisser mon travail pour m'engager dans ce groupe qui s'appelait Christ. Christ est la réponse, un groupe américain, mais où il y avait plein de jeunes de différentes nationalités. Et voilà, me voilà quittant mon travail à la Source Perrier, où j'avais une bonne situation, et je suis parti dans ce groupe. Et c'est dans ce groupe que le Seigneur avait un cadeau pour moi merveilleux. C'est là que j'ai rencontré mon épouse Agnès, qui était elle aussi, qui avait quitté aussi son travail pour servir le Seigneur à plein temps. Et nous sommes restés dans le groupe quelques mois. Je suis resté 6 mois. Je crois que Dieu m'y a envoyé simplement pour que je puisse rencontrer Agnès. Et avec Agnès, nous sommes partis. Nous nous sommes mariés à Paris chez les frères. Et bien entendu, au bout de quelques temps, dans l'assemblée à Paris, nous avons dit aux frères, mais nous, notre vocation, c'est l'évangélisation. Nous voudrions partir. Et nous sommes partis avec la communion des frères, c'est-à-dire ce que la Bible appelle la main d'association. Nous sommes partis comme missionnaires dans le sud de l'Espagne. Et là-bas, nous sommes restés pendant plus de 10 ans. J'avais un stand biblique, d'ailleurs on le voit sur mon petit livre, j'avais un stand biblique sur les marchés où j'ai évangélisé. Et le Seigneur, dans sa grâce, nous a bénis. Il nous a donné 3 beaux enfants, Benjamin, qui a fait ses études à Dalzon, qui est professeur de philosophie et de théologie, qui est en train de préparer une thèse de doctorat. Notre fille Salomé, qui travaille à Londres. Et notre fille Nathanaël, lui aussi, qui traduit des livres en anglais et en français pour la Bible. Et alors, voilà, l'affaire a continué. 10 ans missionnaire en Espagne, puis nous sommes rentrés en France. Et voilà qu'on m'a proposé, est-ce que ça vous intéresserait d'être aumônier des prisons? Je n'y avais jamais pensé. Et je me suis dit, pourquoi pas? Avec mon désir d'évangéliser, j'ai été pendant 13 ans aumônier des prisons au sein de la Fédération protestante de France, bien entendu. Hein. Je fréquentais plus ce milieu. Et là, j'ai eu l'occasion pendant 13 ans d'évangéliser, parce que je parle plusieurs langues, l'anglais, l'espagnol, le français. J'ai eu l'occasion de parler, de témoigner. Et tellement bien que nous avons à l'heure actuelle dans notre petit groupe un prisonnier qui s'appelle Michel, qui a fait 22 ans de sûreté. C'était quelqu'un qui avait une peine lourde. Et il venait à mes réunions à la prison. Et maintenant, il est sorti, il a été libéré. Il s'est converti et il se réunit avec nous tous les dimanches. Voilà, et l'histoire continue. J'ai rencontré des gens et il y a eu des conversions. Et voilà, c'est une histoire qui est formidable. Oui, je le dis, c'est formidable de connaître Jésus-Christ.
Puisque vous êtes féru de Bible,
oui.
Est-ce qu'il y a une parole de la Bible qui vous a retenu et que vous voudriez dire aux auditeurs?
Oui, je voudrais dire que déjà ce grand message qu'on a appelé l'Évangile, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu est amour, je connais les pensées que je pense à votre égard. Dieu nous aime, Dieu aime l'homme. Et il est le seul qui soit capable de nous combler. Béni soit l'Éternel qui de jour en jour nous comble de ses dons, dit le psalmiste.
Merci pour ces paroles, Lionel Guibal. Je rappelle que votre petit livret, vous pouvez le trouver facilement à la librairie Certitude.
Oui, et sur Internet aussi.
Et sur Internet, aux éditions Édition et Impression, Diffusion de la Bible, Grand Rue 92, c'est en Suisse, et c'est 1180 Roll. Et vous pouvez retrouver ceci sur un site.
J'ai aussi, La Vie en Jésus, mon site, où j'écris des articles qui sont absolument gratuits, il n'y a rien à payer. Et là, il y a mon témoignage, si quelqu'un est intéressé, mon témoignage est enregistré complètement dans le site internet, La vie en Jésus, collé minuscule.fr. Et là, vous pouvez profiter de ces écrits, parce que quand je me suis converti, j'avais à cœur d'écrire des choses pour le Seigneur. Et Dieu m'a donné ce service de pouvoir écrire.
Lionel Guibal, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à Agnès qui vous épaule dans ce ministère.
Oui, c'est vrai.
À bientôt.
À bientôt et merci pour l'accueil. Au revoir.
Au revoir.
Chers amis auditeurs et auditrices, vous êtes bien sur le 103.2. Vous savez que vous pouvez nous écouter aussi en DAB+. Vous écoutez nos podcasts aussi sur radioalliance+.fr. Et vous venez d'entendre le témoignage de Lionel Guibal, qui a été interviewé par Radio Ecclésia et qui nous a fait profiter de ce témoignage, de vous faire connaître Lionel Guibal, qui est aumônier des prisons à Tarascon et à Arles depuis de nombreuses années. Mais avant ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a eu une autre vie, vous avez pu l'entendre, une longue vie particulière avec un grand témoignage de ce que Dieu a fait pour lui, et ça nous fait toujours du bien d'entendre comment Dieu peut transformer des vies. Puis nous avons entendu le chant « À qui irions-nous, Seigneur Jésus ?» qui a été écrit, parole, musique, arrangement par le pasteur Christophe Huppert. Eh bien, notre émission se termine maintenant avec toutes ces belles choses que nous avons pu entendre qui vont nous faire du bien pendant toute la semaine prochaine. Et je vous souhaite un bon week-end, une vie dans la joie du témoignage aussi, à votre façon, chacun à sa manière. Profitez bien de ce week-end et à la semaine prochaine.